Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Mathieu Davigna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, spécialiste du grand siècle, coordinateur de la recherche et de la formation au château de Versailles. Alors vous entamez avec nous une série d'éphémérides sur le grand siècle, ainsi qu'une série de portraits sur le siècle donc de Louis XIV. Et alors vous avez retenu comme première date le 9 octobre 1683, date du mariage de Louis XIV avec Madame de Maintenon. Pouvez-vous, Mathieu, nous rappeler le contexte dans lequel intervient cette union ?
Alors en fait, on est à peu près au mois de juillet 1683, le roi revient de Bourgogne après de longs séjours, il s'est énormément absenté, vraiment on est dans un cadre vraiment où la famille royale est en état le plus florissant et tout va bien. Et les rois et la reine rentrent à Versailles le 20 juillet. Donc rien ne laisse présager que quelques temps plus tard, la reine va mourir. En effet, elle est prise d'un accès de fort de maladie dès le 26 juillet, un lundi, et elle meurt dès le vendredi, le 30 juillet. Alors, évidemment, c'est un changement de théâtre, comme on appelle cela à Versailles. Il n'y a plus vraiment de maîtresse officielle pour Louis XIV. On sait que Madame de Montespan, qui était la grande favorite du siècle de Louis XIV, n'est plus vraiment de grande faveur. Le roi a eu Mademoiselle de Fontanges entre-temps, mais on sait très bien que tapis dans l'ombre, il y a Madame de Maintenon. On commence à appeler depuis bien longtemps déjà Madame de Maintenon, d'après la correspondance de Madame de Sévigné. Et tout le monde parle de Madame de Maintenon, justement en comme éventuellement une nouvelle femme pour le roi.
Alors concrètement, comment se passe ce mariage ?
Alors on a très très peu d'éléments, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est très secret. Tout le monde à l'époque savait les liens qui unissaient le roi à Madame de Maintenon. On savait très bien qu'ils étaient proches depuis de nombreuses années, mais rien ne transparaît de véritablement concret. Donc la date, on en parlera peut-être plus tard, et certainement, est une hypothèse. Donc c'est un samedi, le 9 octobre, le roi est à Fontainebleau, il rentre de Fontainebleau en fin d'après-midi, et d'après les témoins, le mariage a eu lieu la nuit, donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très secret, et d'après Saint-Simon, le seul à donner plus ou moins un lieu, il parle d'un cabinet de Versailles, sans autre précision, et voilà, donc on a vraiment très 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 peu d'éléments. En revanche, tous les mémorialistes et les diaristes de l'époque, les chroniqueurs, ont évoqué ce mariage plus ou moins de façon contemporaine ou immédiatement après, voire bien après. Il y a un certain nombre de témoignages et on évoque tous les témoins qui ont pu ou qui ont dû assister à ce mariage.
Qui ont pu simplement, c'est-à-dire que nous n'en sommes même pas sûrs.
Non, on n'en est pas sûr. On parle de Arlette Chamballon. Alors en revanche, il y en a pour lesquels ils apparaissent dans toutes les sources, notamment l'archevêque de Paris, Arlette Chamballon, Bontemps, le premier valet de chambre de Louis XIV, le père de Lachaise, même s'il n'apparaît pas chez Madame de Caylus. Mais alors, ça alterne, mais alors on a tantôt Louvois qui est comme témoin, tantôt non, tantôt le monsieur et madame de Montchevreuil, tantôt Fénelon, le père de Lachaise, donc je le disais, le confesseur du roi est régulièrement là. Et donc, d'après, donc, il y a l'abbé de Choisy, Madame de Caylus. Madame de Caylus, au contraire des autres, parle de personnes au courant. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas qui ont assisté au mariage, mais elle parle de personnes qui ont été mises dans le secret. Mmh. Alors, il y avait l'abbé de Choisy, sinon, qui parle de vraiment Mademoiselle d'Aumale, qui deviendra la secrétaire de Madame de Maintenon, le duc de Saint-Simon, et puis Voltaire, après, au XVIIIe siècle, dans son siècle de Louis XIV.
On ne sait pas qui marie le roi ? En tous les cas, qui bénit l'union ?
Alors, il y en a qui parlent de l'archevêque de Paris, comme Arlette de Chamballon, qui disent que c'est Monseigneur l'archevêque de Paris. Il y en a d'autres qui parlent du confesseur. Mais les rôles sont très très peu déterminés. Tantôt, Bontemps, par exemple, assiste comme témoin. Tantôt, on dit que c'est lui qui a dressé l'autel. Ça dépend vraiment de tous les mémorialistes. Chacun y met sa propre histoire. Alors, Choisy est quand même quelqu'un qui n'est pas nécessairement très introduit à la cour, donc il l'a par des on-dit. On sait qu'il a énormément travaillé sur le journal du marquis d'Anjou, qu'il a certainement eu entre les mains. Madame de Caylus est une nièce à la mode de Bretagne, comme on disait, de Madame de Maintenon, c'est-à-dire relativement éloignée, qui naît à peu près à cette époque-là, donc qui n'est pratiquement pas née, donc c'est aussi a posteriori. Également pour Mademoiselle d'Aumale, qui est secrétaire de Madame de Maintenon, mais 20 ans après, donc elle n'en a que ce que lui a raconté sa maîtresse. Saint-Simon, on ne va pas revenir sur Saint-Simon, qui est né en 1675, donc il n'a que, à cette époque-là, 8 ans. Oui. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, tout le monde à la cour sait que ce mariage a eu lieu.
Il y a une chose importante, Louis XIV, en fait, a à peine 40 ans, c'est cela ?
Oui, il est... Voilà,
Il reste jeune.
Oui, il a 45 ans.
Oui.
Le contexte également, c'est pourquoi ce mariage, non pas par amour forcément, mais plutôt que de venir d'abord à pourquoi ce mariage, surtout, tout le monde a pensé à remarier le roi immédiatement. C'est-à-dire que...
Il y avait des prétendantes ?
Il y avait des prétendantes, on parlait de l'infante de Portugal, on parlait notamment même Madame de Montespan se manifeste énormément à ce moment-là.
On sait que le premier mariage de Louis XIV avec Anne d'Autriche était un mariage politique.
Et là, on se dit, Madame de Montespan dit, le roi ne peut pas rester comme ça, veuf, il est encore jeune, etc. Donc on cherche absolument à le remarier. Et puis après, on commence à réfléchir quand même à la question politique. Un second mariage, ça suppose de nouveaux enfants.
Mmh.
Et donc... problème dynastique. Donc très difficile d'envisager un mariage officiel avec une nouvelle alliance, avec une nouvelle couronne, parce que je crois que la plus grande prétendante était l'infante du Portugal. Donc c'est relativement oublié comme ça. Le roi à cette époque a eu déjà donc Monseigneur. Il a eu d'autres enfants, mais c'est le seul qui a survécu, le Monseigneur le Dauphin, dont la femme, la dauphine, vient d'accoucher d'un duc de Bourgogne, qui sera le premier petit-fils du roi, qui sera le père de Louis XV. En 1683, naîtra au mois de novembre Philippe d'Anjou, le futur roi d'Espagne, et en 86, le duc de Berry.
Donc la postérité est assurée.
Donc il n'y a pas lieu de remarier le roi dans l'immédiat.
Alors quels étaient les liens entre Louis XIV et Madame de Maintenon ? Peut-être non pas simplement les liens d'un amant avec sa maîtresse, mais au-delà, peut-être le côté humain. Comment cela se passait-il entre eux ?
Alors en fait, ça a commencé sur des très mauvaises bases. Madame de Maintenon était la gouvernante, avait été choisie pour élever les enfants bâtards du roi et de Madame de Montespan. Elle avait été engagée en 1669 lors de la naissance du premier enfant du roi et de Françoise de Rochechouart. Et le roi a très très mal réagi alors que Madame de Montespan lui vantait, sans se rendre compte par la suite évidemment que ça allait lui être fatal, vantait tous les bienfaits de cette veuve Scarron, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même la veuve du poète burlesque Paul Scarron. Et Louis XIV lui disait un peu, en quelques mots, vous m'embêtez avec votre bel esprit, votre bel oiseau, etc. Et puis il y a un tournant dans les années 1675, ça fait près de 8 ans qu'il est déjà avec Madame de Montespan, il y a un peu de lassitude. Déjà, Louis XIV a des passades à droite et à gauche en dehors de Madame de Montespan. Et il se rapproche de plus en plus et il trouve de la conversation auprès de cette femme qui a 3 ans de plus que lui, qui est la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, qui a été très très bien élevée, qui a une culture, qui a fréquenté tout l'hôtel d'Albret et des choses comme ça, donc qui faisait partie de ce qu'on appelait les précieuses à l'époque. Et ça se rapproche. Alors ça se manifeste tout d'abord par un premier don en argent en 1674 qui lui permet d'acquérir la terre de Maintenon, qui devient marquisat peu de temps après. Et puis, au fur et à mesure des multiples naissances de Madame de Montespan, évidemment, elle est de plus en plus présente. Et lorsque les princes, du moins pas les princes, mais les bâtards sont légitimés et deviennent princes et donc peuvent apparaître à la cour, parce qu'avant elle vivait cachée dans une maison rue de Vaugirard à Paris, elle vient elle-même à la cour et elle rencontre de plus en plus souvent le roi. Alors évidemment, les liens se rapprochent au fur et à mesure, mais c'est surtout des conversations, on part des conversations et des choses comme ça.
Louis XIV, c'était un esprit. Hein. Oui. Il a également beaucoup évolué sur le plan religieux. Il est beaucoup plus rangé, si l'on peut dire.
Alors, on a coutume de dire que Madame de Maintenon y a beaucoup participé, mais je pense qu'avec l'âge, de toute façon, il devait certainement... Ça devait être une évolution naturelle. À mon avis, je pense que ça devait être une évolution naturelle. Je pense qu'elle lui a énormément parlé de Dieu, ça on le sait, mais tout s'est effectivement bien combiné. Elle a été là au moment où il fallait qu'elle soit là. Madame de Montespan, il faut quand même savoir qu'elle est restée près de 13 ans maîtresse du roi. elle était totalement différente de Madame de Maintenon. Et Madame de Maintenon était quelqu'un de calme, de posé. Et le roi a pu, comme ça, se rapprocher progressivement de Madame de Maintenon.
Alors, pourquoi avoir gardé secret ce mariage ?
Alors, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Françoise d'Aubigné, alors ça beau être une noblesse, c'est quand même une petite noblesse. Elle est fille d'un monsieur d'Aubigné qui avait passé quelques temps dans la prison de Niort pour des méfaits, parce qu'il jouait énormément. Il avait dilapidé le bien de son grand-père, le grand Agrippa d'Aubigné. Et donc, elle était quand même d'une noblesse relativement pauvre. Elle s'était, qui plus est, mariée avec Paul Scarron, qui n'avait pas la plus grande réputation. Et donc, c'était vraiment la parente pauvre que Madame de Villette ou Madame de Murçay avait recueillie chez elle et qu'on avait mariée comme ça pour s'en débarrasser. Elle a été veuve très très jeune, puisque Scarron est mort en 1660. Donc, elle est née en 1635. Ça faisait une veuve très très jeune. Elle a fréquenté ensuite l'hôtel d'Albret, où elle a rencontré Madame de Montespan. Pourquoi donc ne pas... Parce que c'est ni plus ni moins qu'une mésalliance, que le plus grand roi du monde à l'époque, dit le plus grand roi du monde, se marie avec une femme de aussi petite noblesse, c'est quand même assez inconvenant.
N'était-ce pas aussi un moyen de régulariser les choses par rapport à l'Église ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu le dire, mais pour Louis XIV, c'était pour lui une manière de régulariser sa liaison qu'il avait depuis de nombreuses années avec Madame de Maintenon. Donc face à l'Église, c'était tout à fait une régularisation, oui.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a une question de date qui est une interrogation. Comment se fait-il que l'on ne connaisse pas la date exacte du mariage du roi ?
Alors, je vous le disais, oui, il y a plusieurs propositions. Parmi tous les gens que je vous ai cités tout à l'heure, Choisy parle de 1686, Madame de Caylus est très, très peu loquace, alors ça, on ne sait pas trop, Mademoiselle d'Aubagne non plus, Saint-Simon parle plutôt de 84, il y en a qui reparlent de 86, il y en a même qui parlent de beaucoup plus loin. Pour les pièces concrètes, on a essayé de voir ce qu'il en était, et évidemment, le registre paroissial de l'époque 1683 a totalement disparu. De même, mais ça c'était plutôt anecdotique, mais c'est quand même assez étrange, les mémoires du marquis de Sourche, qui vont de 1681 à 1712, manquent les deux manuscrits des années 83 et 84, donc on ne peut pas vérifier non plus. Et voilà, mais on est sûr de ce mariage, au moins à partir de 1684, parce que je ne sais plus, il y avait un article dans les années 60 de Madame Engel, qui cite un courrier officiel adressé au roi, dans lequel on fait officiellement référence à de l'aide de félicitations à ce mariage. La princesse Palatine en parle plus tard en disant « Il est clair que la vieille ripopée a épousé le roi » et des choses comme ça, mais sans donner de date. Et puis par ailleurs, par rapport à la correspondance de Madame de Maintenon, on est sûr également qu'elle s'est mariée. On voit très bien un peu de temps au mois d'octobre 83, où elle écrit à son frère et elle dit « Ce qui m'a empêché de vous écrire, ce sont des plus grandes choses, etc. » On voit, quand on analyse sérieusement la correspondance de Madame de Maintenon, on voit un avant et un après octobre 1683.
Eh bien, Mathieu Davignat, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur « Les Vallées de Louis XIV » paru chez Perrin. Vous avez participé également à un colloque au Centre d'études historiques de Tours dont les actes ont été publiés, Louis XIV et le Grand Siècle, une autre idée de l'Europe avec la participation de Jean-Christian Petit-Fils ou bien de Jean Barbet. Cet ouvrage est disponible donc au Centre d'études historiques de Tours, boîte postale 51 403 37 014 Tours Sélex. Merci beaucoup Mathieu Davignat.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouvel éphéméride ou un nouveau portrait. À très bientôt.